Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation, mobilisation sociale
et citoyenne. Écologie, économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet. Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Bonjour Marie, bonjour Benjamin.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux intervenants pour l'association Paloma à Nantes. On est rue Fourré au 33, quartier des Olivettes, dans un joli petit local sur des canapés avec des plantes que vous avez aménagées. Ici, c'est un espace où vous recevez des travailleuses et des travailleurs du sexe.
Oui, peut-être que je peux refaire un point un peu historique sur la création du programme. En fait, le programme a été créé en 2000 par Médecins du Monde. À la toute base, Médecins du Monde remarquait que des personnes exerçaient dans la rue et se sont donc dit on va aller à leur rencontre avec un sac à dos et des thermos. Sauf que très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir couvrir tout le périmètre de Nantes parce qu'à pied c'est très long. Et donc il y a eu l'idée de développer une équipe mobile, donc d'avoir un camion pour pouvoir aller dans une démarche de prévention et de réduction des risques dans la rue. Et aussi très rapidement, ils se sont rendus compte que des demandes émergeaient dans la rue la nuit et qu'elles ne pouvaient pas être traitées directement. D'où l'idée d'ouvrir ce local où là en fait les personnes amènent des besoins, des demandes, des envies et que ce soit sur des thématiques sociales, médicales ou juridiques. Le programme de Médecins du Monde, à la base, a été pensé comme un programme de santé, mais comme un programme de santé global, en se référant à la charte d'Ottawa qui définit la santé comme un ensemble de déterminants sociaux. Parce qu'en fait, la santé, c'est pas juste avoir mal au ventre et aller chez le médecin, c'est avoir des amis, c'est avoir accès à un toit, c'est avoir accès à la nourriture, enfin... Tous les besoins primaires, en fait, sont relatifs à la santé. Et donc, effectivement, le programme a tenu pendant de nombreuses années et n'a pas vocation, en fait, à garder les programmes. À Médecins du Monde, ils ont pour objectif d'aller là où il n'y a personne. Et une fois qu'ils estiment le programme assez stable et pérenne dans le temps, ils le retransmettent. Et donc là, c'est Paloma qui a été créé. Pour l'anecdote, Paloma, ça veut dire colombe en espagnol. La colombe, c'est le logo de Médecins du Monde. Et donc oui, on a repris en 2017 donc, toutes les actions qui étaient portées par Médecins du Monde, mais en essayant de développer la dynamique communautaire. Ce qu'on entend par dynamique communautaire, c'est comment en fait, on arrive à mieux faire groupe, parce que je pense qu'auparavant, on disait le communautaire, c'est faire participer les personnes concernées. Mais finalement, c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi comment on arrive à faire participer tout le monde. Donc les salariés, le CA, les bénévoles, les personnes suivies. Et c'est surtout comment on arrive à repartager le pouvoir, parce qu'en fait, aujourd'hui, il est beaucoup tenu par les salariés. Et l'idée, c'est de pouvoir repartager le pouvoir et de monter en compétence tous et toutes ensemble.
C'est ce qu'en anglais on appelle « empowerment », en fait. Vous cherchez aussi à donner, du pouvoir aux personnes directement concernées.
En effet, oui, la dynamique communautaire en fait, qu'on essaye de déployer, ça fait vraiment partie de l'ADN du nouveau Paloma. Et en fait, l'idée, c'est quand même de pouvoir donner le plus de pouvoir en fait, aux personnes concernées. Et on essaye de penser le lieu comme un lieu ressource, d'une part un espace de non-jugement et aussi un espace en fait, que les personnes peuvent s'approprier. Et nous, on a développé une posture qui est celle de facilitateur, facilitatrice, et qui consiste à mettre en lien les personnes, à leur donner les ressources auxquelles nous on a accès, et à faire en sorte qu'en fait, on soit le moins utile possible. C'est un peu là où on en est aujourd'hui. C'est pas forcément évident, au vu des réalités différentes de chaque personne, mais on y travaille.
Alors, je vous propose qu'on creuse un peu cette question de la participation, mais d'abord pour qu'on comprenne. Vous avez évoqué les bénévoles de Paloma, le conseil d'administration, les usagères et usagers aussi. Est-ce qu'on pourrait connaître un peu plus tout ce petit monde de Paloma pour comprendre ce dont il s'agit? Combien y a-t-il déjà à côté salariés, bénévoles, adhérents, CA? Qui êtes-vous?
Alors, ce sont souvent des équipes mixtes. En tout cas, dans l'équipe salariée, on a deux personnes personnes TDS, donc travailleuses du sexe, ou anciennement travailleuses du sexe, et deux personnes alliées, donc non concernées par l'activité. C'était important pour nous que le public qu'on accompagne soit représenté au maximum, parce que qui de mieux que des personnes concernées pour prendre les décisions qui les concernent, justement. Dans le CA, cette année, on a fait le choix de ne pas avoir de personnes concernées parce qu'on se rendait compte que c'était compliqué, en fait. Le public avec lequel on était en lien jusqu'ici, c'était principalement des personnes qui travaillent dans la rue, et notamment avant de lancer l'action Aller Vert sur Internet, c'était des personnes qui sont très précaires et qui, du coup, n'ont pas forcément l'énergie, l'envie et le temps de s'investir dans un conseil d'administration. Donc on s'est dit que cette année, c'était un fait, on n'a pas de personnes concernées, mais on y travaille pour le conseil d'après, de l'année prochaine. L'équipe de bénévoles est aussi mixte, on a, je dirais, entre 15 et 20 bénévoles, entre des personnes alliées, donc alliées des TDS, et des personnes anciennement ou toujours actuellement travailleuses du sexe, surtout de rue, je dirais. Et ensuite, on a trois files actives différentes au niveau des personnes qu'on rencontre. En fait, on a une file active de personnes qu'on voit dans la rue, qui sont à peu près aux alentours de 50. On a une file active de personnes qu'on voit ici au local, qui sont au nombre de 130 personnes. Et on a une file active plutôt internet, donc des personnes vers lesquelles on va sur internet, qui sont aux alentours de 170 personnes. Voilà. Sachant que dans ces trois files actives, on peut retrouver des personnes... j'entends une personne qu'on verrait dans la rue vient aussi au local, donc il peut y avoir des doublons, mais voilà.
Ça fait quand même pas loin de 300 personnes, du coup, qui gravitent autour de Paloma. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être de la diversité des profils? On imagine quand même, a priori, qu'il y a beaucoup de personnes migrantes qui sont, en tout cas à Nantes, on entend dire que souvent une grande majorité des personnes prostituées sont des femmes migrantes, notamment du Nigeria et d'Europe de l'Est. Vous, voilà, quels sont les publics que vous représentez et que vous accompagnez?
Historiquement, effectivement, on était uniquement sur les personnes qui travaillaient dans la rue, donc on avait... effectivement des personnes principalement du Nigeria et d'Europe de l'Est. Depuis 2 ans, on a développé des actions donc d'Aller Vert sur Internet, et là le public s'est élargi en fait, et du coup on va avoir des femmes françaises, donc qui vont clairement pas avoir les mêmes besoins. C'est principalement des femmes, on a quelques hommes, mais c'est un peu à la marge, et du coup on va couvrir effectivement un éventail très large avec beaucoup de nuances, d'une personne qui arrive à peine du Nigeria, qui connaît absolument pas ses droits, et à une femme française qui a besoin d'informations pour une déclaration à l'URSSAF ou de choses très pratiques. Et entre ces deux... c'est souvent assez binaire la façon dont c'est représenté, et entre ces réalités il y a vraiment des nuances très subtiles. Et beaucoup de points communs, plus de points communs. Et on va s'attacher aussi beaucoup à faire le pont entre ces différentes réalités, parce qu'il y a forcément des thématiques qui vont revenir, des questionnements autour de l'épanouissement dans la sexualité, dans leur couple, en fait, et comment faire en sorte que le travail soit bien séparé de leur sexualité de tous les jours. Et ça se présente dans toutes les situations.
Et puis pour rebondir sur ce que dit Ben, j'aime toujours citer cette personne qui s'appelle Osmos, qui est travailleuse du sexe non binaire, et qui dit il y a autant de formes d'exercice du travail du sexe que de personnes qui l'exercent. Il y a une diversité des pratiques, une diversité des expériences, des vécus. Même en ayant deux femmes nigérianes qui ont eu un parcours similaire, en fait, il va y avoir plein de choses différentes. Chaque personne a un parcours unique, et donc c'est aussi sous cet angle-là qu'on accompagne. Et les demandes vont toujours être très diverses. On a des personnes qui vont avoir un degré d'autonomie très très important, et elles n'ont quasiment pas besoin de Paloma, en fait. Et je pense que c'est ce à quoi on tend. On parle d'empowerment, redonner du pouvoir d'agir aux personnes. Comme disait Ben tout à l'heure, l'idée c'est que si un jour on n'est plus là, ça continue de rouler, de tourner pour les gens. Et une dernière chose aussi sur ce que tu disais, Ben, sur la question très binaire, je pense que dans la tête des gens, les personnes qui exercent dans la rue, qui sont donc pour une grande majorité des femmes cisgenres, qui sont migrantes, originaires du Nigeria ou de Roumanie principalement. Donc il y aurait d'un côté ce public-là qui n'aurait forcément pas choisi la question du travail du sexe, qui serait forcément dans une position de subir, et de l'autre côté des personnes françaises blanches qui auraient forcément choisi cette activité. C'est pas si binaire que ça. Il y a plein de personnes originaires du Nigeria qui aujourd'hui sont régularisées et qui décident quand même de continuer à travailler dans la rue parce qu'en fait les autres options qu'on va leur proposer dans le cadre du travail plus classique, je dirais, ça va être des travaux de ménage, généralement, ce qui n'est pas toujours très satisfaisant ni épanouissant pour les personnes. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes françaises qui subissent l'activité et qui, par rapport à une question de précarité, n'ont juste pas d'autres possibilités sur le moment. Et je pense qu'il y a toujours cette question du choix qui va être posée. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'être travailleur ou travailleuse du sexe? Mais par contre, on ne pose jamais la question à une personne qui travaille à la FNAC. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de travailler à la FNAC? En fait, je pense qu'on est dans une société capitaliste qui demande à avoir un revenu pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc je pense que l'explication numéro un pour la majorité des personnes, c'est la question de l'argent en fait. Comment je fais pour manger et dormir?
Et j'ajouterais juste, on accompagne aussi des personnes qui sont victimes de traite et ou d'exploitation sexuelle. Donc on accompagne aussi ces personnes à il y a des droits qui sont aussi là pour les protéger. Donc on fait aussi de l'accompagnement et j'aimerais juste préciser qu'on parle de travail du sexe de façon assez... assez détendu, parce qu'on peut aussi parler de travail forcé, et que ça c'est dans la loi, donc pour nous ça nous pose pas forcément de soucis, et qu'on a tendance à aussi utiliser un vocabulaire que les personnes utilisent, donc on va s'adapter en fonction de chaque situation.
Peut-être que on peut revenir, en tout cas vous avez dit, vous avez trois files d'attente, dans la rue, ici dans le local de Paloma sur l'accueil, et puis sur internet, si on commence un petit peu dans la rue, qu'est-ce que vous faites, quels sont les besoins travailleuses et travailleurs du sexe dans la rue. À Nantes, vous travaillez sur la métropole, sur la ville de Nantes. D'abord, vous ne nous avez pas précisé, quand on dit dans la rue, c'est où?
Dans la rue, c'est principalement à Nantes. L'activité de rue, c'est quand même assez réduite au fil du temps. Donc là, c'est plutôt à Nantes. Après, il y a potentiellement d'autres endroits où ça peut arriver de manière ponctuelle. Donc on va aussi faire un travail de veille pour voir si dans la métropole il y a du travail de rue. Après sur internet ça sera beaucoup plus large, là on va être vraiment dans la Loire Atlantique, il y a vraiment des petites villes où il peut y avoir pas mal de communautés de travailleuses du sexe.
Aussi pour préciser, à la différence de toutes les autres villes en France, Nantes c'est la seule ville où des personnes exercent encore dans le centre-ville. Il y a eu beaucoup d'arrêtés municipaux et préfectoraux dans d'autres villes qui ont poussé en fait les personnes plutôt aux périphéries des villes. À Nantes on a cette chance que la mairie notamment soit assez ok avec le fait qu'il y ait des personnes qui exercent dans le centre-ville. Ce qui nous permet aussi d'avoir une facilité d'accès, puisque le centre-ville, c'est facilement accessible. Et donc, on a une équipe mobile, donc le fameux camion de Paloma. On commence en général autour de 21h ou 22h, ça dépend de si c'est l'hiver ou l'été, en fonction de l'heure à laquelle le soleil se couche. Et on est très identifié par les personnes, parce que mine de rien, on les connaît quand même plutôt pas mal. Et depuis quelques années, il y a beaucoup moins de nouvelles personnes dans la rue. En 2016, j'ai le souvenir de croiser plusieurs nouvelles personnes chaque semaine. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Ça s'explique aussi peut-être par le fait qu'il y ait des personnes qui travaillent sur Internet maintenant, mais on a différents arrêts, je dirais une quinzaine à peu près. Il y a souvent du monde à chaque arrêt. Et donc, à la base, l'idée, c'est de créer du lien social et de pouvoir dire qu'on est là. Donc, ça va être avec des outils médiateurs type café et capote, mais en fait, c'est un peu plus le prétexte à la rencontre. Et après, bon, bah, ça peut être des conversations de groupe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font monter dans le camion, et donc là, ça peut partir sur tous les sujets. Parfois, ça va être des conversations plus individuelles, où c'est une seule personne. On propose parfois des tournées un peu thématiques, sur des thèmes particuliers, souvent relatifs à la santé, mais pas toujours. Parfois, ça prend pas. Les personnes ont juste envie de parler de ce qu'elles vont faire samedi soir. Il y a une grosse fête. Enfin, voilà, c'est souvent une ambiance assez chouette, assez bonne. Ouais, bonne ambiance.
Là, ce que vous mettez en avant, c'est vraiment le lien social, finalement humain. Mais est-ce que ça veut dire que, principalement des femmes, du coup je vais raccourcir en disant les travailleuses du sexe qui sont dans la rue à Nantes, sont à la base assez isolées En tout cas dans l'exercice de leur travail, dans ces moments de travail là.
Oui, et j'y pensais tout à l'heure quand on parlait de la question du communautaire, c'est qu'au moment où on a aussi commencé à travailler avec la TRAM, qui est une asso qui accompagne les autres associations à développer le communautaire, on s'est au même moment rendu compte que beaucoup de personnes se plaignaient de l'isolement social à la sortie du Covid. C'était compliqué, il y avait eu beaucoup moins de contact entre les gens, elles ne pouvaient plus sortir dans la rue pour exercer. Et en fait, pour les personnes qui ne sont pas régularisées, parce qu'on en accompagne quand même, il y a vraiment un manque d'accès aux droits communs et du coup, un manque de reconnaissance de la part des institutions. Et je pense qu'il y a aussi un isolement face aux institutions avec lesquelles elles pourraient être en lien. Donc au moment où on a pensé le communautaire, on a aussi pensé à la question de la santé mentale et donc comment on peut créer des nouveaux espaces juste sociaux. Donc effectivement, les tournées en font partie, mais on essaye en ce moment aussi de mettre en place des soirées un peu conviviales où on invite tout le monde. Et franchement, il se joue des choses très très chouettes. Des personnes qui veulent, ça y est, là, faire planter des légumes dans le jardin derrière, organiser un atelier couture. Et je pense qu'on va aussi mettre en place le jeudi après-midi un espèce d'après-midi café où on pourrait ne pas être là, parce que nous, en général, le jeudi, c'est notre réunion d'équipe, mais où des bénévoles, des personnes peuvent venir et faire leur vie dans Paloma, quoi. Qu'elle puisse aussi s'approprier le lieu. C'est pas juste un local. La salle d'attente, on l'a rebaptisé le salon. Voilà.
Et sur l'isolement, il y a aussi quelque chose qui est inhérent au fait que la société stigmatise le travail du sexe. Et du coup, on se retrouve aussi, moi-même, en tant qu'ancien TDS, je n'en avais pas forcément parlé à mes amis, à ma famille. Et du coup, ça fait aussi partie des deux réalités, en fait. Il y a les personnes qui vont prendre cette honte que la société leur met, qui vont le cacher à leur famille et qui peuvent aller travailler, du coup, dans la rue, en cachette de leurs enfants, de leurs conjoints, qui, généralement, est au courant. Mais du coup, il y a vraiment... Enfin, c'est aussi l'idée, c'est qu'en fait, il puisse y avoir des profils qui vont aller militer à visage... découvert et d'autres qui vont du coup être un peu isolés parce qu'en fait elles mènent une double vie qui n'est pas forcément facile à gérer.
Et sur la prise de contact et le temps que cela prend d'instaurer un lien de confiance, comment est-ce que c'est un travail que vous avez fait à pas de fourmi au fur et à mesure des années et puis qui s'est propagé aussi par bouche à oreille? Comment est-ce que vous avez tissé ces liens?
Moi, je n'étais pas à l'origine dans la rue, mais pour les nouvelles personnes que j'ai pu rencontrer dans la rue, ça prend du temps, effectivement. Après, il y a un peu le bouche à oreille qui fonctionne. Et dans la rue, c'est plutôt facile d'aller vers la personne et de montrer qu'on n'est pas la police, on n'est pas... Enfin, y a toujours ces craintes, en fait, de ne pas savoir qui on est et ce qu'on va pouvoir dénoncer ou pas. Mmh. Sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on a confié cette mission au sein de Paloma à des personnes qui sont TDS ou anciennement TDS pour faciliter la prise de contact. Et du coup, on envoie des textos sur un numéro qui est un numéro professionnel. Donc, on rentre quand même dans l'intimité des gens et c'est pas forcément toujours bien reçu. Mais petit à petit, en fait, il y a les gens qui vont nous répondre et ça va prendre un peu de temps. Ça va commencer par les textos. Idéalement, petit à petit, on va rencontrer les personnes et il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne de mieux en mieux.
Vous disiez sur votre rôle, c'est de créer du lien finalement, du lien humain entre travailleuses, travailleurs du sexe, de la convivialité. Mais si on revient aussi sur les questions d'accès aux droits, de connaissance des droits, d'accès aux soins aussi, vous êtes née de médecin du monde, qu'est-ce que vous proposez à ces... travailleuse.
Comme je disais tout à l'heure, on est une association de santé. L'objectif aussi de faire ces tournées dans la rue ou sur Internet, c'est juste de pouvoir dire qu'on est là. Et du coup, de présenter Paloma brièvement et ensuite, les personnes, elles s'en saisissent ou pas. Bien souvent, pour les personnes qu'on va voir au local, il va y avoir une vraie question sur l'accès à la régularisation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en demande d'asile, donc on va faire le suivi de toute cette demande d'asile. On n'écrit pas les récits, mais on fait le suivi, les préparations de recours avec les avocats et tout ça. C'est juste un exemple, mais qui prend aussi pas mal de temps. On fait de l'accès aux soins de manière générale. On ne fait pas de soins à Paloma, on fait beaucoup d'orientation. Donc pour des personnes qui n'auraient pas encore de droit ouvert à l'assurance maladie, il y a un bâtiment derrière l'hôpital, le bâtiment Tourville, qui est réservé avec une permanence d'accès aux soins et santé pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner l'accès à ce qui existe à des personnes qui n'ont pas beaucoup de... qui n'ont pas accès, en fait, aux droits communs. Heureusement, il existe ce genre d'endroit. Après, on fait de l'accompagnement. On travaille beaucoup avec le planning familial, avec le CHU de manière générale. Mais le planning familial, ça va être plus sur des questions de, je ne sais pas, retard de règles, contraception. En fait, c'est vraiment un éventail très, très, très large. On suit aussi des personnes qui vont, je ne sais pas, avoir rendez-vous chez le cardiologue et du coup, la traduction est compliquée ou on fait des accompagnements préparatoires à une IVG. Donc il y a tous les enjeux, je dirais, de la traduction, de déconstruire les représentations que les personnes peuvent avoir. Par exemple, j'ai souvenir d'une personne qui me disait bah, « je vais aller chez le médecin, je vais lui demander ça, 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 ça ». Alors c'est pas comme une liste de courses, c'est le médecin aussi qui va te réorienter, qui va te dire bah, « ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas le faire ». Donc oui, c'est expliquer le système et en fait donner toutes les clés aux personnes pour qu'elles puissent le comprendre au mieux et ensuite s'en saisir comme elles le sentent. Et puis après, il y a aussi toute la thématique, je dirais, sociale qui là est aussi très très vaste. Normalement, on est censé être là que pour des personnes qui n'ont pas d'accès aux droits communs. A priori, une fois qu'elle devrait être régularisée, elle pourrait avoir accès à un espace départemental de solidarité pour avoir un suivi avec un ou une assistante sociale. On se rend compte que dans les faits, le lien de confiance est très créé avec Paloma. Une assistante sociale, malheureusement, on peut l'avoir qu'une fois par mois parce qu'elles ont plein de dossiers et qu'elles peuvent pas couvrir toutes les demandes. Donc on a beaucoup de personnes qui reviennent. Et voilà, ça se travaille comme ça.
Je compléterai juste sur le fait que pour les personnes qui ont déjà accès aux droits communs, on est aussi toujours présent et présente pour, par exemple, trouver un médecin qui puisse accueillir aussi la parole, le TDS. Sur la question trans aussi, ça revient assez souvent, en fait, de trouver des médecins qui sont bienveillants. Et du coup, on va aussi partir sur cette thématique et parfois aussi faire des entretiens en tripartite avec ou des professionnels du social ou de la santé et les personnes pour qu'on puisse démonter un peu les représentations effectivement qui sont très stigmatisantes et qui entravent du coup l'accès aux droits.
Et l'accès aux soins. Concernant l'accès aux droits, vous accompagnez à peu près 300 personnes. Quelle est la proportion de celles et ceux qui sont en situation régulière et donc ont accès aux droits communs et de celles et ceux qui n'y ont pas accès? Est-ce que c'est un ordre d'idée hein, pour savoir?
C'est un chiffre qu'on ne mesure pas dans nos rapports d'activité ou dans nos statistiques.
J'aurais pas non plus un chiffre précis. Après, ce qui est un peu difficile dans cet exercice, c'est aussi que les situations sont changeantes et qu'on a pas mal de personnes qui sont régularisées sur des titres de séjour très courts, de un an, qui sont pas forcément renouvelés. Et du coup, les situations sont vraiment très difficile à pérenniser. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de régularisation, enfin assez régulièrement, mais aussi beaucoup de gens qui perdent leurs papiers, leur accès, enfin leur travail.
Et là-dessus, sur ce point précis, puisque l'accès aux droits dépend de la régularisation, comment est-ce que ça se passe quand on est travailleuse du sexe et qu'on veut se faire régulariser? Puisque souvent, on va demander de prouver son insertion dans la société, une activité professionnelle. Bon, là, quand il s'agit de prostitution, du coup, comment est-ce que les dossiers passent ou ne passent pas? Est-ce que c'est tu? Est-ce que, au contraire, enfin, comment ça se passe?
Mais je pense que ça dépend, en fait, de la demande de la personne. Ce qu'on pourrait dire, et que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que toutes les personnes exilées sont pour la plupart, toutes dans un parcours de régularisation. À voir si ça fonctionne ou pas. Il y a énormément de demandes d'asile, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont fui un contexte familial ou du pays assez terrible et qui, du coup, décident de venir en Europe. Je ne sais pas si c'est toujours lié directement à l'activité, mais ça peut. Par exemple, une personne qui serait arrivée via un réseau de traite et qui aurait été contrainte de se prostituer en France peut faire une demande de titre de séjour parce qu'elle a été victime de traite et de proxénétisme. Donc, elle porte plainte. C'est un exemple, mais pour rebondir sur ce que Ben dit, elle porte plainte. Si les auteurs sont en France, il va y avoir des investigations de la part de la police. Pendant le temps des investigations, la personne va être régularisée, elle va avoir un récépissé qui lui donne une autorisation de travail, où là, elle va pouvoir éventuellement faire autre chose si elle en a envie et accéder aux droits communs. Seulement, si la police n'arrive pas à arrêter un auteur, la personne perd ses papiers. Donc c'est-à-dire que pendant un temps, elle va être reconnue victime, mais que si on ne trouve personne, On arrête tout. Et c'est assez terrible pour les personnes parce qu'en fait, du coup, elles vont avoir accès aux droits communs, elles vont avoir un job, elles vont avoir un appart, elles vont avoir tout. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. Donc en fait, c'est voilà. Et après, il y a des titres de séjour qui sont plus pérennes et ça arrive aussi. Mais je veux juste dire que parfois, c'est des allers-retours entre eux. On a accès aux droits communs avec des papiers, on les perd, on y retourne. Il y a des personnes qui sont ici en France depuis 15 ans, qui n'ont jamais été régularisées et qui en fait ont trouvé d'autres moyens alternatifs de quand même réussir à faire leur vie. Clairement, c'est loin d'être idéal, hein, mais les personnes ont une capacité de résilience assez importante quand même. Donc non, on ne pourrait pas donner de chiffres particuliers, mais ça s'explique effectivement par ces allers-retours entre régularisation, non-régularisation.
Dans les demandes d'asile, en fait, si jamais la question du travail du sexe est abordée, et selon la nationalité de la personne, en fait, c'est peut-être plus les avocates qui vont un peu forcer à... En fait, il y a une espèce de... Il y a beaucoup de représentations. Et une femme nigériane qui aurait choisi, en arrivant en France, de devenir travailleuse du sexe, je pense que ça passerait pas pour une demande d'asile parce qu'il y a forcément une représentation sur... Elle est forcément victime de traite. Et du coup, il y a aussi un besoin... J'ai l'impression, enfin, quelque chose qui s'est créé de l'ordre de se conformer à ce qu'on attend de ces personnes. Et on voit bien qu'il y a des dossiers qui vont pas passer parce qu'en fait le parcours de vie est pas identique à ce qu'on s'attend. Il y a vraiment ce concept de victime idéale qui a été pas mal développé par des chercheurs et chercheuses, ça peut être un peu dangereux d'aborder ça si c'est pas sous couvert de traite et d'exploitation sexuelle.
Mais ça veut dire en tout cas que pour vous, cette figure de la femme prostituée qui fait partie de filière, qui est enfin vraiment vue comme une victime, et avant tout sous ce cliché-là, elle est à déconstruire en partie. En tout cas, pour laisser place aussi, enfin qu'il y a une forme d'autonomie ou de choix, de nécessité un petit peu qui va être différent dans ce que vous voyez, vous accompagnez.
Oui, et puis je pense que justement, cette figure de la victime, elle va être de A à Z, et à aucun moment, la personne, elle va être essentialisée par ce seul prisme de victime, sauf qu'en fait, elle est plein d'autres choses. Et à certains moments, elle a pu aussi avoir... Enfin, en fait, je nuancerais en disant qu'elle a pas... Elle a pu avoir parfois des choix à faire, enfin... Je veux dire, la personne ne peut pas être victime de A à Z, et on reconnaît bien sûr ce statut de victime, et c'est important de pouvoir le reconnaître, mais on ne va pas accompagner la personne que sous ce prisme-là, parce que elle est aussi une personne qui a envie de sortir et faire des trucs. Enfin, voilà, elle n'est pas que victime. Donc je dirais qu'on aborde ça sous ce prisme-là, et j'allais faire encore une digression, mais peut-être que ce sera après. Enfin, j'allais juste dire qu'en fait... Il y a encore ce truc très binaire en France et dans plein d'autres pays de t'es pour ou t'es contre. Et nous, on est ni pour ni contre la prostitution ou le travail du sexe. En fait, on est plus sur l'idée de se dire voilà, il y a des personnes qui exercent cette activité et nous, notre travail, c'est de pouvoir les accompagner au mieux. Donc de leur donner les infos et ensuite de les accompagner dans leurs besoins. Une personne qui, comme je disais tout à l'heure, veut porter plainte contre son réseau et être régularisée pour ça, bah c'est ok en fait parce que on la suit dans ce qu'elle veut. À l'extrême opposé, une personne qui, puisque je le rappelle, la prostitution en France est légale, qui voudrait ouvrir son autre entreprise en tant que personne prostituée, eh ben on va aussi l'accompagner sur ça. Et entre ces deux extrêmes-là, comme le disait Ben tout à l'heure, il y a une diversité des situations dont on n'imagine même pas l'ampleur. Voilà, je veux juste revenir là-dessus parce que, du coup, le fait de dire qu'on n'est pas forcément contre la prostitution, ça, dans la tête des gens, ça reviendrait à dire qu'on est pro-prostitution et on ne l'est pas. On est, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On est sur une posture de décriminalisation du travail du sexe. On n'est pas pro-prostitution.
Être seul, c'est difficile. Et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile. Surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur... Bah c'était la première fois, puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, bah je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh, laissez donc ma maman. Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh, chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Vous avez parlé de la décriminalisation. On va y venir. Juste une petite question avant. Une personne prostituée qui souhaite sortir de la prostitution, est-ce qu'aujourd'hui, c'est jouable?
Alors oui, il y a quelque chose qui existe. En fait, en 2016, il y a eu une loi qui est sortie qui s'appelle la loi de lutte contre le système prostitutionnel, avec un volet pénal, donc qui pénalise les clients, et un volet social relatif au parcours de sortie de la prostitution. Donc ce parcours à Nantes, il existe. Il faut demander l'agrément pour pouvoir proposer le parcours. Donc là, à Nantes, c'est le Mouvement d'Uni qui est une autre association abolitionniste plutôt, mais qui accompagne aussi les personnes qui se prostituent, qui proposent ce parcours. Dans les faits, c'est assez compliqué parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient vouloir rentrer dans ce parcours, mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a peu de place et qu'il y a seulement une salariée qui peut proposer l'accompagnement. Donc tout de suite, ça fait beaucoup de charges de travail et je pense que dans les faits, c'est pas possible de pouvoir dire oui à tout le monde. Nous, on n'est pas particulièrement favorable par rapport à l'idée même du parcours de sortie, parce qu'on se dit pourquoi pas juste proposer un parcours d'insertion comme n'importe quelle personne. C'est le caractère, je dirais, un peu spécifique du parcours de sortie qu'on dénonce, et je sais qu'on se rejoindra avec l'association Le Mouvement d'Uni sur ce point-là, la question de l'allocation qui n'est pas suffisante. Il y a une allocation de 330 euros par mois. Dans les textes de loi, on prévoit normalement un logement avec. Dans les faits, on sait à quel point le marché du logement est saturé. À Nantes, on a la chance que la déléguée des droits des femmes a réussi à trouver deux places d'hébergement. Dans d'autres départements, il n'y en a aucune. Il n'empêche que voilà, la personne présente son dossier. Si elle remplit les critères demandés, elle rentre dans le parcours qui dure 2 ans. Donc c'est 6 mois, renouvelables 3 fois, donc sur 2 ans maximum, avec une attestation provisoire de séjour qui peut lui donner une autorisation de travail. Mais peut-être que les premiers mois sont compliqués parce que du coup, on vient d'avoir son récépissé, on a seulement 330 euros, peut-être sans hébergement. Les premiers mois sont compliqués et dans la logique, on doit s'engager à ne pas retourner se prostituer. Et donc on imagine qu'au début, ça peut être un peu complexe. Donc voilà, on a un regard un peu critique sur l'allocation qui est vraiment insuffisante, qui est bien en dessous du RSA, qui est déjà pas très suffisant.
Oui, il y a un côté un peu indigne en fait de proposer 300 euros à une personne et de lui interdire de retourner travailler dans la rue. Puisqu'en fait, il y a aussi, la réalité est très différente selon les villes, selon les préfectures aussi. Et il peut y avoir un travail de flicage qui est fait. Et si les personnes sont surprises en train de travailler, alors qu'elles sont entrées dans ce parcours de sortie, tout s'arrête pour elles.
Mais donc l'intérêt de ce parcours de sortie, c'est éventuellement la régularisation. Mais enfin non, est-ce que ça facilite la régularisation? Mais sinon, est-ce qu'il vaut mieux pas simplement demander le RSA plutôt que de rentrer dans un... Enfin, pour toucher un peu plus et pas être fliqué?
Alors, j'ai l'impression, Ben, tu me dis si je me trompe, mais que les personnes qui aujourd'hui exercent dans la rue et qui vont avoir envie de rentrer dans le parcours, numéro un, potentiellement, elles les exercent dans la rue parce qu'elles n'ont pas encore accès à la régularisation. Donc, en fait, si elles veulent aussi quitter la rue, c'est pour avoir accès à la régularisation. On ne peut pas avoir accès au RSA si on n'a pas de papier. Donc on est obligé de trouver une autre solution. Le parcours de sortie arrive comme une potentielle solution de sortir de la rue, mais surtout d'accéder à des papiers, parce qu'en fait, la chose qui bloque en numéro 1, c'est l'accès à la régularisation. Donc on a quand même cette sensation que les personnes envisagent le parcours de sortie comme un moyen de régularisation, et donc de sortie de la rue. Voilà, ça va de pair, en fait, je pense.
Et c'est vrai que le parcours de sortie, il n'est pas satisfaisant aussi par le nombre de personnes qui peuvent y entrer. Après, ça dépend encore une fois de chaque ville. Effectivement, pour une personne qui aurait déjà des papiers, le RSA est effectivement plus intéressant. Et il y a une espèce d'hypocrisie en fait dans la manière dont ça a été amené selon nous en fait. Et donc, si vraiment le gouvernement voulait sauver ces femmes victimes, et ben voilà, peut-être se donner les moyens, ça serait pas mal, notamment sur le logement. Après, malheureusement, faute d'avoir des leviers satisfaisants, il y a tout un système de location de documents qui existe. Et ça, on le voit beaucoup, pas que dans le TDS, en fait.
Pour toutes Uber les Eats, voilà, pour tous les livreurs.
Et du coup, c'est malheureusement une des options qui est possible pour n'importe quelle personne sans papier de payer assez cher des documents. Et on n'a pas de solution pour sortir parce que s'il n'y a pas de ressources... voilà, elles ont besoin de survivre, donc c'est en gros, soit elles travaillent non déclarées et avec des faux documents, soit elles continuent l'exercice du TDS.
C'est pour ça que votre travail d'accompagnement à Paloma, sur tout ce qui est régularisation, est en fait le premier élément pour améliorer le quotidien, le vécu des gens, mais aussi leur laisser le choix, finalement, dans leur vie, de poursuivre, de ne pas poursuivre la prostitution.
Mmh. Exactement.
Et alors, concernant celles qui souhaiteraient s'organiser pour avoir un travail dans des conditions justement un peu dignes, respectueuses, c'est là où vous dénoncez la criminalisation de la prostitution, c'est-à-dire que la loi actuelle empêche les travailleuses et travailleurs du sexe de s'organiser collectivement.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, enfin, nous-mêmes à Paloma, de la loi de 2016 qui pénalise les clients, mais...
C'est-à-dire que les clients, pour être concret, les clients payent une amende si la police, en tout cas, constate l'achat de prestations sexuelles, une amende qui est de combien et qui, dans les faits, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est une centaine d'euros et
non,
puis est-ce que c'est plus? D'accord.
C'est plus cher. Je crois que la première amende doit être aux alentours de 1 500 euros. Et la deuxième est aux alentours de 3 750 euros en cas de récidive. On peut peut-être juste faire une micro-parenthèse sur cette loi de pénalisation, parce qu'en fait, on se rend compte encore un peu du paradoxe de cette loi. On légalise la prostitution, mais on interdit les clients d'acheter des services sexuels tarifés. On a vu sur le terrain que ça avait vraiment inversé le rapport de force, où les clients prennent le risque de se faire contrôler par la police.
Est-ce que ce risque est réel? C'est-à-dire, est-ce que la police, par exemple, à Nantes, effectue des contrôles et met des amendes aux clients des prostituées? C'est davantage une peur théorique ou un moyen de pression voilà, qui est utilisé par les clients comme un élément de négo?
Oui, je pense que les clients ont bien conscience de cette loi. À Nantes, en réalité, la police ne verbalise pas les clients. Je pense qu'encore une fois, ça dépend des villes et des préfectures. Mais de manière générale, en France, les clients ont bien conscience de cette loi et s'en servent bien, effectivement, pour négocier les tarifs à la baisse, les pratiques, aller dans des endroits plus reculés parce qu'il ne faut pas qu'on nous voie et qu'on nous entende. Mais du coup, en cas d'agression... le client n'est plus un client, mais un agresseur, c'est utile de le rappeler, va pouvoir faire toute chose en toute impunité sans que la personne puisse être entendue ou vue. Potentiellement, elle a peur de la police, donc elle n'ira pas porter plainte. Et c'est un ensemble de choses. En fait, il y a des personnes très vulnérables du fait de l'absence de papier, de la précarité, de tout ça, qui fait qu'elles n'ont pas toujours accès non plus à une défense comme elles devraient pouvoir y avoir accès.
Et sur le terrain, il y a des choses très concrètes aussi qui ont changé sur l'endroit où se mettent les femmes pour travailler. J'ai une femme qui me parlait qui adorait travailler avant sur le quai de la Fosse et qui utilisait elle se mettait sous un lampadaire avec une caméra de surveillance et elle se sentait à la fois vue et rassurée. Maintenant, les clients ne vont pas s'arrêter sous une caméra et un lampadaire. Donc en fait, les agressions vont pouvoir augmenter aussi parce qu'en fait, elles se mettent dans des endroits un peu reculés. Et c'est un vrai problème, en fait, cette loi. Cette loi, en fait, quand même permis, enfin, a été abrogé le racolage passif, le délit de racolage passif qui faisait que les femmes étaient en garde à vue de manière assez régulière selon les villes. Et donc, il y a au moins ça qui a été abrogé. Il y a tout un volet aussi d'accompagner les clients, de faire une espèce de réhabilitation avec un stage qui n'est pas appliqué non plus. Mais voilà, ce n'est pas la loi la plus efficace. Pour revenir à la loi de 2003, du coup, qui est du coup peut-être moins connue, qui est assez intéressante à lire, parce qu'en fait, c'est celle qui va définir en partie, il y a toute une partie sur la traite, il y a une partie sur le proxénétisme, et qui va définir du coup ce qu'est le proxénétisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce que chacun, chacune imagine du proxénète, mais il y a aussi tout ce qui est proxénétisme, le soutien qui est défini, et d'entraide, et le proxénétisme hôtelier. Et du coup, il faut bien avoir en tête qu'il est interdit en France d'organiser le travail du sexe d'une manière ou une autre, ce qui fait qu'en France, en fait, on est proxénète si on loue un appartement à une personne qui va exercer l'activité légale à nouveau du TDS. Du coup, on se retrouve avec des propriétaires, avec des personnes qui vont du coup devoir cacher leur activité à leurs propriétaires, du coup, qui ne peuvent pas se déclarer alors qu'elles ont le droit de se déclarer, mais qui ne peuvent pas fournir leur déclaration URSSAF à leurs propriétaires. Donc on a aussi pas mal...
Pour papier, pour pouvoir avoir un logement, on trafique pour pas rentrer là-dedans. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et marchands de sommeil aussi qui vont profiter du risque qui est pris pour facturer un peu plus les loyers. On n'aurait pas le droit de garder les enfants d'une travailleuse du sexe qui serait partie travailler. Donc une babysitter peut se retrouver proxénète. Alors dans les faits, ça n'arrive pas. Ce qui a été déjà criminalisé, c'est l'usage de... Alors certaines femmes s'étaient regroupées, notamment à Paris, des femmes qui font du traditionnel et qui avaient engagé un agent de sécurité. L'agent de sécurité, qui était quand même salarié, est devenu proxénète de fait. Et parce qu'en fait... organiser la sécurité d'une TDS, c'est être proxénète. On ne peut pas être non plus en couple avec une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe qui gagnerait plus que nous et qui payerait le loyer et les factures. L'argent, en fait, il est légal, mais il est considéré comme sale et inutilisable par d'autres personnes. C'est un peu l'idée de la loi, en fait.
Mais ce qui veut dire que, dans l'idéal, ce qu'aimeraient faire certaines travailleuses ou certains travailleurs du sexe, c'est de pouvoir, par exemple, se regrouper dans un lieu, dans un grand appart, avec des chambres, un contexte de sécurité, un vigile à l'entrée. Ça, c'est une demande qui est formulée par certaines travailleuses et qui est complètement... Enfin, de se créer son propre cadre de travail, un petit peu, et des fois en collectif, et qui ne peut pas être... aujourd'hui
Oui, il y a une demande, alors je ne saurais pas non plus la quantifier, mais il y a une demande d'être, par exemple, en coopérative. Je pense qu'il y a cette question qui revient toujours un peu de si ça devient décriminalisé, quel est le statut, est-ce qu'on veut du salariat ou... Et j'ai l'impression que l'alternative qui est souvent proposée, ou en tout cas dans les cercles militants, c'est la coopérative qui permet de s'organiser et de rester quand même patron, patronne de son travail.
C'est une forme, en fait, la coopérative est une forme aussi qui permettrait justement de prévenir le vrai proxénétisme par rapport à des modèles de maisons closes, entre guillemets, qu'on peut voir dans d'autres pays. Là, ce serait un statut qui permettrait de concilier la liberté d'indépendance, de sécurité des femmes et la lutte contre le proxénétisme. C'est ça qui est défendu aujourd'hui.
C'est plutôt ça qui est... Oui, c'est vrai que le modèle de la maison close n'est pas forcément défendu par les défenseurs de la décriminalisation. Donc la coopérative serait peut-être... après, il y a d'autres formes. Il y en a qui peut-être militent pour le salariat aussi au niveau des droits. C'est quand même pas la même chose non plus. Mais c'est vrai que là, le seul statut qui est possible aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneuriat, qui n'est pas super satisfaisant et qui va avec pas mal de contrôles fiscaux aussi. Donc là, la coopérative pourrait être un moyen, en tout cas, un moyen intéressant de pallier à pas mal de choses. Mais pour l'instant, enfin, c'est ça qui est complètement étrange, c'est que l'activité est légale, mais en fait les formes d'exercice sont absolument limitées par un cadre de loi un peu absurde.
Un petit mot sur, puisque vous le suivez, Ben, la prostitution sur Internet, en fait, quelle spécificité, voilà, quel public, quel besoin. Est-ce qu'il y a plus d'isolement? Est-ce qu'il y a quand même du lien entre les travailleuses qui exercent sur Internet?
Alors, c'est assez compliqué, parce que du coup, on n'a pas forcément accès à toutes les réalités, mais y a plusieurs types de travail, en fait. Par travail du sexe aussi, on inclut les contenus pornographiques, on inclut les ventes d'objets érotiques, par exemple Vente à culottes, qui est un site qui est assez utilisé, où des femmes ou des hommes vont vendre des sous-vêtements utilisés. Pour nous, c'est du travail sexuel aussi, et du coup, les besoins peuvent être assez spécifiques, en fait. Il peut y avoir les mêmes personnes, et des personnes très isolées, effectivement, celles qui n'ont pas forcément accès à leurs droits. Ça va être un peu plus difficile de contacter ces personnes et de les rencontrer, mais petit à petit, ce travail se fait. Donc on a un public qui peut être assez identique à celui de la rue. Après, y a forcément des réseaux qui peuvent être organisés. Là, c'est beaucoup plus compliqué du coup d'accéder aux personnes qui y travaillent. Donc il y a beaucoup d'angles morts aussi qui font que ça prend du temps pour découvrir toutes les réalités.
Justement, est-ce que c'est possible d'avoir une consommation éthique? Est-ce que Internet permet d'aller vers des travailleuses plus indépendantes, plus libres, et de s'assurer de ça peut-être plus facilement?
Un des problèmes, encore une fois, de la loi de 2003, c'est que vu qu'on ne peut pas organiser le travail, on se retrouve avec des sites qui sont hébergés dans d'autres pays. Donc on se retrouve avec l'impossibilité de la police française à pouvoir contrôler vraiment ces sites. Le fait qu'on milite tant contre cette loi sur le proxénétisme, c'est aussi pour permettre d'agir en fait là où les réseaux peuvent éventuellement travailler. Après, c'est difficile de savoir qui. Enfin, il y a tellement de potentiels faux profils. Petit à petit, je pense qu'on, avec le travail de terrain qu'on peut faire avec d'autres assos communautaires, on peut. Il peut y avoir de la prostitution des mineurs qui peut y être, et petit à petit le travail est fait en fait, mais c'est vrai que c'est à nous, assos communautaires, de faire ce travail. Et du coup, je sais pas, pour la consommation éthique, c'est vraiment difficile. Après, on peut imaginer qu'une personne qui arrive à payer un site un peu luxe, avec des profils qui coûtent un peu cher, potentiellement est plus indépendante, mais où potentiellement c'est un réseau qui a les moyens de payer des profils, donc je pense que c'est difficile de repérer, et nous on laisse plutôt les personnes se confier à nous si elles n'ont pas envie de raconter leur réalité. En fait, on peut aussi travailler sur d'autres choses. En fait, ça n'empêche pas qu'il y ait une démarche de réduction des risques et que de savoir qu'il y a un accès à des traitements s'il y a une prise de risque par rapport au VIH. Voilà, enfin, c'est plus ça qui va faire qu'on va commencer toujours sur cette entrée un peu santé. Et petit à petit, en fait, on va pouvoir creuser.
Là, sur Internet, l'objectif, c'est, vous prenez contact, c'est pareil, d'informer des droits, des dispositifs qui existent, et puis de proposer aux personnes qu'on aura envie de venir vous rencontrer dans la vraie vie, venir ici au local de Paloma, et puis rencontrer d'autres travailleuses. C'est bien ça aussi sur Internet vos...
Oui, bah, l'idée, c'est de pouvoir envoyer des messages de présentation de l'association, parfois, où là, on va effectivement dire en quelques lignes ce qu'on fait à Paloma. Et puis après, il va y avoir des sujets, je dirais, un peu plus thématiques en fonction des semaines. Par exemple, on a fait toute une campagne sur la vaccination Monkeypox, puisqu'on allait au vaccinodrome avec AIDS pour être là, pour les personnes qui se faisaient vacciner. Donc ça nous paraissait important de pouvoir diffuser de l'info là-dessus. Ça peut être, je sais pas, il y a AIDS qui vient aussi faire des permanences de dépistage de VIH et hépatite. C'est le deuxième jeudi du mois. Ça peut être bien de faire des petits rappels de temps en temps. Donc oui, les messages sont assez divers et variés et reviennent parfois 6 mois après. Et en fait, les personnes ne vont pas forcément se saisir du message directement, elles vont le lire, parfois elles vont dire merci, parfois elles vont rien répondre, mais 6 mois après, elles vont se rappeler du message de Paloma. Et là, elles peuvent rappeler Paloma en disant « Oui, j'ai reçu votre message, je suis en sex tour, là je suis à Toulouse, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un endroit pour aller me faire dépister ?» Donc on remarque aussi que les messages qui sont envoyés peuvent avoir des répercussions, mais éventuellement plus tard dans le temps, quoi.
Et sur la création de liens humains in real life, j'imagine que vous constatez une augmentation massive de la prostitution sur Internet par rapport à la rue et à d'autres formes. Et est-ce que finalement, ça amène pas, comme dans plein d'autres secteurs, une fragmentation du lien social? Est-ce que ce lien existe quand même? Et puis, est-ce que vous arrivez à renouer?
C'est vrai que ça s'est énormément démocratisé sur Internet, et encore plus après avec le Covid. Donc j'imagine quand même qu'effectivement, c'est de fait plus compliqué de créer du lien parce qu'on est une personne derrière un ordinateur et qu'au départ, ça peut être compliqué parce qu'on ne sait pas qui c'est, parce que les personnes qui exercent sur Internet reçoivent des tonnes d'annonces, des tonnes de pubs, des tonnes d'arnaques. Donc en fait, Paloma peut très bien aussi passer pour une arnaque. Mais cependant, il y a quand même un lien qui finit par se créer, pas non plus avec toutes les personnes, mais il y en a quelques-unes qui viennent au local. Et effectivement, je pense que se voir en face à face, ça aide aussi à créer le lien beaucoup plus qu'à travers un écran.
Si on doit synthétiser un peu là, pour vous, ce que serait une société idéale qui prend en compte les paroles, les besoins des personnes qui se prostituent, si on essaye de résumer un peu, il y a la décriminalisation, la capacité de s'organiser, et puis des moyens plus globaux, des moyens sociaux d'accès au logement, mais qui peuvent concerner toutes les personnes qui sont en difficulté et en situation irrégulière, donc des moyens sociaux au sens large, c'est bien ça ?
Je pense que dans l'idéal, toutes les personnes n'auraient pas de frein dans l'accès aux droits et aux soins, toutes les personnes seraient régularisées et auraient donc le choix de faire ce qu'elles veulent, et sur la question spécifique vraiment du travail du sexe, on milite vraiment pour la décriminalisation du travail du sexe, on n'est ni pour l'abolition de l'activité, ni pour la réglementation de l'activité, parce que à l'origine, le cadre plutôt réglementariste, comme il existe en Allemagne par exemple, a vocation effectivement à encadrer les personnes, à les déclarer et à tout ça, mais il y a aussi quelque chose de sous-jacent qui est de l'ordre du contrôle hygiéniste, pour lequel nous on ne milite pas, bien qu'on donne les informations à tout le monde, et on n'est pas non plus dans la logique prohibitionniste qui serait d'interdire et de pénaliser et les personnes qui proposent des services sexuels et les personnes qui en achètent. La prohibition, c'est ça, c'est interdire toute forme de prostitution en ciblant toutes les populations qui graviteraient autour.
La réglementation, c'est l'encadrement sanitaire et légal de l'activité. Mm-hmm. Et la décriminalisation, est-ce que vous pouvez du coup la définir telle que vous la défendez à Paloma ?
Du coup, la décriminalisation, c'est un peu en dehors des trois modèles très très largement représentés dans le monde entier, à savoir l'abolitionnisme, le réglementarisme et le prohibitionnisme. Ben, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est ?
J'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi avoir confiance dans le système de la justice française, en fait, et de se dire qu'en fait, il y a pas forcément besoin de loi spécifique à une activité qui est déjà encadrée. Enfin, le travail forcé, c'est déjà dans la loi. L'exploitation, c'est encadré. Enfin, on n'a pas besoin de créer des lois pour cette population qui serait du coup différente du nôtre, alors qu'en fait, c'est le viol aussi est puni. En fait, tout existe déjà dans l'arsenal des lois françaises. C'est pas forcément idéal sur tous les points, mais en tout cas, ça suffit à encadrer et à s'assurer que ces personnes ont un accès aux droits. Et du coup, c'est juste de considérer en fait les travailleuses du sexe, exploitées ou non, en fait, comme n'importe quelle personne. En fait, on n'a pas des lois spécifiques aux gens qui sont exploités dans le BTP. Bon, voilà, il y a quand même ce stigma qui fait qu'on va toujours les considérer comme des citoyennes quand elles deviennent citoyennes de seconde zone, en quelque sorte. Et ce qui va beaucoup manquer, je pense, c'est le fait de parler à ces personnes. Elles sont rarement entendues, et c'est important d'accueillir leurs paroles et de voir quelle est la réalité. Parce que finalement, la prostitution, c'est quand même un contrat très, très clair entre une personne consentante et un client qui consent à payer un acte sexuel ou un objet. Finalement, c'est souvent un contrat qui est très sécurisant, en fait. On nous rapporte souvent qu'en fait, les agressions sexuelles, elles ont souvent lieu en dehors de ce contrat, en dehors du TDS. Et je pense qu'il y a tout aussi un mythe autour du client qui serait forcément un agresseur et qui serait... Et le TDS, c'est pas du viol financé, en fait, enfin, ou rémunérer. Il y a tout un travail derrière d'accompagnement. Et donc c'est peut-être ça aussi.
D'accompagnement, vous voulez dire au sens humain, de lien humain, et puis d'accompagnement sexuel. Enfin, pour vous, il y a un travail, enfin, le travail de la prostitution. C'est pas le statut, uniquement le statut de, justement, de victime ou de viol. C'est un vrai travail avec des savoir-faire, avec un vrai service rendu. C'est ça aussi que vous dites.
Ouais, j'ai l'impression qu'on se compare souvent à des psys, en fait. Et, en tout cas, de mon expérience, il y a plein de fois où il n'y a pas de relation sexuelle et où ça se limite à discuter. Et il y a des agressions, bien entendu, mais en fait, on estime que ces agressions, elles peuvent être grandement évitées par un cadre qui pourrait sécuriser, du coup, l'activité. Et le simple fait de pouvoir hurler dans son appartement parce qu'on est agressé et d'oser prévenir les voisins, c'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire, en fait.
Ou d'avoir un bip collectif avec un agent de sécurité qui est prévenu pour plusieurs filles qui travaillent et d'avoir un système d'alerte.
Ça peut exister, mais ça existe même. Ça, certaines personnes s'organisent, mais ce n'est pas forcément légal selon les pays. Mais oui, en fait, il y a plein de solutions qui ont été mises en place par les travailleuses du sexe et il y a plein de savoirs communautaires qui circulent aussi pour prévenir les agressions. Il faudrait juste que ça puisse devenir légal et être partagé plus facilement que sous le manteau.
Et juste un petit mot pour la fin, parce que j'y pensais en t'écoutant parler, Ben, je pense qu'on revendique aussi notre positionnement à travers un féminisme qui se veut inclusif et intersectionnel, parce qu'en fait on accompagne des personnes TDS, mais qui sont queer, qui sont LGBTQIA+, qui sont des personnes trans, des personnes handy, des personnes musulmanes, enfin voilà, on accompagne tout le monde. À travers cet angle-là intersectionnel qui est vraiment à la croisée de toutes les discriminations systémiques dont on peut être victime.
Merci Marie, merci Ben d'avoir pris ce long temps de communication et en tout cas de vulgarisation sur ce sujet. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, Pensée locale, les reportages de la Fédération associative des Pays de la Loire. Ça dure à peu près 5 minutes et tout de suite après, vous pourrez retrouver Rock à la Casbah. Bonne soirée.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie
économie sociale et solidaire en Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet. Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Bienvenue à vous. Ce n'est pas avec moi que vous allez passer le plus de temps. C'est avec Vincent et Chugnot qu'on a invité au carré pour présenter un spectacle Kérion dont vous allez aussi faire partie et ça on en est ravis.
Dans le bel écrin du carré scène nationale, 8 binômes parents-enfants ont 24 heures pour devenir les artistes éphémères du spectacle Kérion.
Faire là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un filage technique. Comme ça, on voit nos déplacements, on voit la musique, on voit l'ordre dans lequel on fait les choses. Et puis moi, ça va me permettre aussi de vous redonner ou reproposer des intentions, parce que donc là, on a présenté petit bout par petit bout aux enfants d'une manière assez ludique. Et puis derrière, nous, on peut peut-être se nourrir. Un peu d'intention, on appelle ça.
C'est une musique toute douce, comme ça, avec une très belle chanteuse qui s'appelle Lyorshouv, une sorte de grande berceuse. Et c'est le moment de regarder si notre enfant est bien détendu, même devant du public. Voir si ses membres sont encore mous, est-ce qu'on peut lui faire des petites caresses, des petits frottis dans le dos. Le prendre peut-être sur nos genoux, le faire tourner sur nos genoux. Si on a envie, si les états de corps du parent et de l'enfant coïncident bien, on peut essayer de le faire voyager son corps sur notre dos, sur notre torse, sur nos jambes.
Rassurer, c'est les uns, Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu voir avec Kevin à Château-Gontier. J'avais envie de remercier très très fort tous les participants, tous les artistes éphémères de cette édition à Château-Gontier qui ont travaillé pendant deux ateliers, parents-enfants et un petit filage technique seulement avec les parents tout à l'heure. Le tout s'est rentré en 24 heures chrono.
Extraordinaire, super expérience. On gronde plus nos enfants qu'on prend du temps à les... justement ces petits moments-là en fait. Je trouve que c'est ressourçant et reposant en fait. Je suis désolé, je vais avoir une petite larme à parler comme ça. Et voilà, c'était assez effectivement. Je trouve pas mes mots. Voilà. C'était émouvant. Voilà, tout simplement.
C'était très beau. Bah, déjà le cadre il est magnifique. Donc l'arrivée là dans les coursives, c'était chouette parce que finalement ça donnait à la fois une image d'ensemble, mais à la fois ça découpait des fois des identités, en fait, on en apercevait un plus qu'un autre, et c'est un peu ça ce que j'ai voulu raconter avec Kélion, c'est à la fois cette parentalité vue d'ensemble et en même temps la singularité de chaque parent qui est mis en valeur. Et voilà, c'est un peu ce que je leur raconte en fait au tout début, c'est qu'être parent, il n'y a pas une seule bonne manière de faire, il y a toutes les manières de faire, et du coup c'est pour ça que je demande aux parents-enfants de participer à la création, c'est pour qu'on puisse peindre ce tableau de la parentalité, mais à plusieurs couleurs, quoi.
Je tenais à remercier tous les parents qui se sont prêtés à ce jeu, à cet exercice du sensible, parce que c'est pas rien de dévoiler une partie de son intimité avec son enfant, et redire que le carré est cet endroit collectif, cet endroit exceptionnel pour les habitants de Château-Gontier et alentour. Aujourd'hui, comme on le voit, il y a des parents, des enfants, des grands-parents. C'est notre boulot, on se dit qu'on le fait pour tout le monde. Personne par personne vivre cette expérience-là fera que normalement demain ils oseront franchir la porte comme c'était la porte de leur salon et se sentir chez eux, quoi.
C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Reportage de Joël Flambard pour L'Autre Radio.